C'est le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La manière forte pour imposer le vaccin aux États-Unis, obligation ou passe sanitaire pour les deux tiers des travailleurs. Et Joe Biden ne mâche pas ses mots contre ceux qui empêchent l'Amérique de tourner la page, on va l'entendre. Deux pays, deux ambiances, nous sommes aussi au Danemark. Plus aucune restriction à partir d'aujourd'hui, reprise d'une vie totalement normale. Les faits dans le détail et les charges retenues contre les accusés, 8 heures de lecture publique aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre, à la veille des commémorations du 11 septembre, demain aux États-Unis, c'était il y a 20 ans, et on continue à identifier les morts du World Trade Center à New York. Votre invité Nicolas est un Américain, la violence, il en fait du cinéma, mais ce n'est pas pour un film que vous le recevez ce matin, mais pour un premier roman.
Oui, son tout premier roman, le réalisateur, scénariste, producteur Quentin Tarantino est notre invité dans une bonne vingtaine de minutes. Le titre de ce premier roman, il était une fois à Hollywood, c'est chez Fayard.
Dans ce journal aussi, sauver les baleines et les dauphins, le congrès pour la biodiversité entre dans le vif du sujet à Marseille. 26 tonnes de cannabis interceptées ce week-end en Espagne. On vous racontera les dessous de cette opération des polices françaises, espagnoles et marocaines. Et puis place aux jeunes à l'US Open de tennis. Ce sont presque deux ados qui s'affronteront en finale chez les dames samedi.
France Inter.
Pfizer et Moderna, deux laboratoires américains pour les deux vaccins les plus répandus en Occident. Pourtant, les États-Unis sont à la traîne. Trop de contaminations, trop de morts du variant Delta et pas assez de vaccinés. Un quart des Américains réfractaires que Joe Biden renonce à convaincre. Il a décidé cette nuit d'imposer le vaccin à tous ceux qui travaillent pour l'État fédéral et l'équivalent du pass sanitaire pour tous les employés dans les entreprises de plus de 100 salariés.
This is a pandemic of the
C'est la pandémie de ceux qui ne sont pas vaccinés. Et elle est causée par le fait que bien que l'Amérique ait un programme de vaccination sans précédent et couronné de succès, il y a encore près de 80 millions d'Américains qui ne se sont toujours pas fait vacciner. Et le pire, ce sont ces élus qui travaillent activement à saper la lutte contre le Covid. Au lieu d'encourager les gens à se faire vacciner et à porter un masque, ils commandent des morgues mobiles pour les non-vaccinés qui meurent du Covid dans leur communauté. C'est totalement inacceptable. Et une minorité identifiée d'Américains, soutenue par une minorité identifiée d'élus, nous empêche de tourner la page.
Voilà, la contrainte pour venir à bout du Covid, deux tiers des travailleurs concernés par ces nouvelles mesures aux États-Unis. La France n'est pas allée jusque-là et compte désormais 85% de sa population vaccinée chez les plus de 12 ans. Pour autant, les disparités entre les territoires sont flagrantes. Dans le Rhône, par exemple, on compte 90% de vaccinés, mais seulement 50% dans une ville comme Vénissieux, d'où cette opération menée dans un lycée du quartier des Minguettes hier. Reportage Mathilde Imberti.
À peine plus de la moitié de la population vaccinée à Vénissieux, c'est encore trop bas pour le responsable de l'ARS dans le Rhône, Philippe Guetta.
Pratiquement 90% des personnes de plus de 12 ans dans le Rhône sont vaccinées. Là où on a des difficultés, c'est surtout dans les quartiers politiques de la ville. On doit être autour de 52-53, voilà. Donc c'est pour ça qu'on fait des opérations d'aller vers.
Et vers les jeunes en particulier, ici des collégiens qui voient leur intérêt direct.
Vu que nous on va faire un stage, et ben si par exemple dans les stages ils demandent de la vaccination, et ben pour qu'on leur montre.
C'est mieux parce que comme ça, moi, je peux l'attraper moins fort.
On doit faire le pass sanitaire, le vaccin, sinon on ne peut pas y aller au cinéma.
Ce que tu vas faire, c'est mettre ton bras le long du corps, hyper détendu.
Hop.
Et voilà, mon grand.
Au-delà des chiffres, c'est de parler du vaccin qui est important, selon le proviseur du lycée Jacques Brel, Damien Coursaudon.
Ça permet aussi d'engager le débat, de lutter contre des représentations faussées, parfois des choses assez hallucinantes. Hein, voilà. La puce, le risque de stérilité, des contre-vérités. Et puis, il y a des peurs justifiées, c'est-à-dire qu'il y a des interrogations. L'école de la République, elle est là justement pour donner les outils pour que les élèves puissent effectivement prendre des décisions éclairées.
Des opérations de vaccination sur le temps scolaire seront proposées tout au long du mois de septembre. À Vénissieux, dans le Rhône, Mathilde Imberti, France Inter.
En Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas eu de mort du Covid jusqu'à présent, mais un premier décès a été enregistré aujourd'hui. L'archipel est sous confinement strict depuis lundi. Le président du gouvernement redoute une crise sans précédent et appelle les Calédoniens à se faire vacciner. Bienvenue maintenant dans un pays qui lâche toutes ses contraintes. Plus aucune restriction au Danemark. À partir d'aujourd'hui, le pays a tourné la page du Covid, Agathe Mahuet l'a constaté à Copenhague.
Cela fait déjà près d'un mois que le masque ici n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et quand on prend le métro de Copenhague, c'est assez frappant, plus personne n'en porte. On a vraiment le sentiment que le Covid au Danemark, c'est de l'histoire ancienne, dit Cécilia. De fait, les Danois n'ont même plus besoin de présenter un pass sanitaire dans les bars et les restaurants depuis le 1er septembre. Et à partir d'aujourd'hui, le Corona Pass, comme on l'a appelé ici, n'est même plus nécessaire dans les boîtes de nuit. Un soulagement pour ce serveur. L'épidémie est sous contrôle, dit le ministre de la Santé, ce que nous confirme la modélisatrice au sein de l'équivalent de notre conseil scientifique, Camilla Hultenmüller.
On a en ce moment seulement 25 à 30 personnes hospitalisées pour Covid par jour. C'est très peu.
Les Danois ont bien géré leur campagne de dépistage. Quant au taux de vaccination, il dépasse maintenant les 95% chez les seniors et les plus fragiles. Ajoutez à cela un vrai crédit accordé aux autorités, comme le dit le sociologue Merlin Schaeffer de l'Université de Copenhague.
Les gens se disent que le gouvernement fait la plupart du temps ce qui est dans leur intérêt. Et ça, c'est déterminant. On nous dit, s'il vous plaît, respectez ces consignes. Et les Danois se disent, d'accord, c'est sans doute ce qu'il faut faire.
Pas d'euphorie pour autant. Le ministre de la Santé n'exclut pas de réinstaurer le Corona Pass si la situation se dégradait à nouveau. Copenhague, Agathe Mahuet, France Inter.
Convoquée ce matin devant la Cour de justice de la République, Agnès Buzyn sera la première à répondre aux questions sur la gestion de la pandémie. L'ancienne ministre de la Santé risque une mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, visée par plusieurs des 16 plaintes jugées recevables par la CJR.
Il est 8h07, vous écoutez France Inter. Au procès des attentats du 13 novembre 2015, Florence, l'appel des parties civiles s'est achevé hier soir.
Salah Abdeslam s'arrogeant une nouvelle fois la parole hors sujet avant que le président de la Cour ne le fasse taire. Jean-Louis Périès, qui se livrera aujourd'hui à l'exercice de la lecture du dossier, c'est ce que prévoit la procédure pénale, Charlotte Piret. Il faudra plusieurs heures pour en venir à bout.
C'est un exercice imposé de tout procès d'assises. Une fois passées les questions de procédure, comme cela a été le cas avec les constitutions de parties civiles, le président entame la lecture du rapport qu'il a lui-même rédigé à partir des éléments du dossier d'instruction. C'est donc une sorte de résumé de l'ordonnance de mise en accusation qui reprend à la fois les faits criminels à l'origine du procès, en l'occurrence le déroulé des attentats sur les trois sites du Stade de France, des terrasses des 10e et 11e arrondissements et dans la salle de concert du Bataclan, puis sont développées les charges retenues contre chacun des accusés. 20 hommes pour le procès qui nous occupe. C'est aussi une lecture qui donne la tonalité et l'orientation de départ des débats qui ne peuvent débuter qu'une fois cette lecture achevée. Alors sans surprise, à procès hors norme, rapport hors norme, l'exercice est prévu pour durer 8 heures environ et donc occuper la totalité de cette troisième journée d'audience. Une lecture à trois voix, puisque le président et ses deux premiers assesseurs se relaieront au cours de l'audience. Une lecture à laquelle plusieurs victimes tiennent à assister, même si elles ont conscience qu'elle pourra aussi être douloureuse à entendre.
Autre date pour un carnage de celles dont on n'ajoute même plus l'année, le 11 septembre, l'attaque du World Trade Center à New York, commémorée demain, 20 ans après, alors que le travail d'identification des victimes ne s'est jamais arrêté. Deux d'entre elles ont été formellement reconnues cette semaine, Benjamin Hilly.
Sur Fox News, Nikia Morgan réagit à l'annonce. Sa mère, Dorothy, 47 ans à l'époque, a été officiellement identifiée comme la 1646e victime des attaques du World Trade Center. Elle travaillait dans la tour nord. C'est encore un choc, dit Nikia, savoir que sa mère a été identifiée tant d'années après. Elle ne pensait jamais avoir de confirmation. La deuxième victime est un homme dont l'identité reste secrète à la demande de la famille. Deux identifications rendues possibles par une technologie de séquençage ADN de nouvelle génération, mais aussi par le travail acharné depuis deux décennies de l'Institut médico-légal de New York, qui évoque l'enquête de médecine légale la plus importante et la plus complexe de l'histoire des États-Unis. Le directeur adjoint du mémorial du 11 septembre, Clifford Shannon.
C'était un engagement pris par le médecin légiste de l'époque et qui était blessé dans l'effondrement des tours. Et il s'est engagé que lui et ses successeurs n'arrêteront jamais la recherche pour identifier toutes les victimes. L'engagement de ne jamais oublier.
Sur les 2753 personnes tuées dans les attaques des tours jumelles, 1106 doivent être encore formellement identifiées. environ 40% des victimes.
Benjamin Ely, c'est leur premier échange depuis que Joe Biden est à la Maison Blanche. Il a parlé cette nuit avec Xi Jinping pour faire en sorte que la concurrence entre les États-Unis et la Chine ne se transforme pas en conflit, indique la présidence américaine. C'est la question du siècle, ajoute le président chinois, pour qui l'hostilité de Washington envers Pékin a déjà causé de sérieuses difficultés. Comment renverser la balance pour ne plus compter le nombre d'espèces qui disparaissent? C'est la vocation du Congrès mondial pour la biodiversité qui est passé à l'étape des recommandations hier à Marseille pour influencer les États et préserver la vie sauvage. Il a déjà été question, Célia Kiré, des océans et des mammifères marins.
Comme une bouteille à la mer, les membres de ce congrès mondial demandent aux États de protéger les mammifères marins, ces dauphins et ces baleines en danger à cause des pollutions ou des collisions avec les bateaux. Et c'est une première, la motion a été votée. Elle était très attendue par certains militants comme Élodie Martini-Cousty de France Nature Environnement.
Il peut être suivi d'effet dans la mesure où l'ensemble des bateaux de commerce mondiaux pourront être équipés de systèmes anti-collision en mer. On essaiera de réduire la chasse aux cétacés par certains pays qui la pratiquent encore. Ce sont les animaux qui se baladent tout autour de la planète bleue. Il faut qu'ils trouvent toutes les conditions à leur survie.
Mais les États vont-ils passer à l'action pour mieux protéger l'océan? Pas sûr. En France, les ONG estiment que l'État ne met pas assez de moyens.
Pour les aires marines protégées, il faudrait tous les ans 250 à 300 millions d'euros pour vraiment avoir une bonne gestion. On ne les a pas et on continue à donner 7 milliards d'euros d'exploitation. Exonération de taxes sur les produits pétroliers à plein d'entreprises. On fait des cadeaux à l'industrie qui pollue et à côté de ça, on ne s'occupe pas de ce qui pourrait nous sauver la vie.
Enfin, une autre avancée est notable. Ce congrès mondial demande aux États de ne pas épuiser les ressources minières des fonds marins. Mais là encore, rien de contraignant.
Le congrès mondial de la nature s'achève demain à Marseille. La mort d'une figure de la politique en Guadeloupe, Lucette Michaud-Chevry, avait 92 ans. Elle a occupé un à un tous les mandats locaux de son île et fut ministre sous Jacques Chirac. On l'a surnommée la dame de fer de la Guadeloupe. 26 tonnes de cannabis, le quart des saisies annuelles en France. C'est une très grosse opération qu'ont menée les polices françaises, espagnoles et marocaines ce week-end. Dans le jargon, on appelle ça une livraison surveillée. Les policiers laissent passer la drogue pour mieux démanteler les réseaux. Et ces 26 tonnes ont été interceptées à Grenade, en Espagne, en provenance du Maroc et à destination de la France. Récit signé Emmanuel Leclerc.
Les policiers marocains ont parfaitement tracé le camion ciblé jusqu'à Tanger Med. Sur le port, on avait les infos en direct, raconte un enquêteur français, et on a pu le prendre en charge à Algeciras avec nos collègues espagnols. Le risque, c'était évidemment que cette marchandise surveillée s'évapore. Une fuite, à un moment donné, une voiture banalisée ou un hélicoptère de la police qui se fait repérer, car chez les trafiquants, on avait sorti les gros moyens pour sécuriser le chargement avec notamment des brouilleurs électroniques. Stéphanie Cherbonnier est la chef de l'OFAST, l'Office français anti-stup.
On est face à des organisations criminels structurés qui utilisent également de manière massive ce qu'on appelle des contre-mesures pour déjouer justement les dispositifs policiers.
Alors, quand le camion a ralenti en Andalousie, puis changé d'itinéraire, que le chauffeur a été remplacé, les Espagnols ont fait ce qui était convenu dans ce cas-là, une interception immédiate. Ce qui était prévu initialement, c'était d'arrêter en flagrant délit dans le sud de la France les équipes de trafiquants qui devaient venir décharger la marchandise des semi-grossistes censés approvisionner ensuite une bonne partie des 4000 points de deal en France. L'enquête démarrée à Caen il y a un an devrait permettre malgré tout, dans les mois qui viennent, de démanteler plusieurs filières de vente de résine de cannabis.
Emmanuel Leclerc, la foule à minuit encore hier soir aux Invalides pour rendre hommage à Jean-Paul Belmondo, dont le cercueil était exposé dans la cour d'honneur. Ses obsèques auront lieu à 11h ce matin en l'église Saint-Germain-des-Prés.
Il est 8h14 quand tous les pronostics sont à jeter.
Et oui, c'est la beauté du sport et du tennis. En l'occurrence, à New York, deux inconnus disputeront la finale dames de l'US Open samedi. Deux très jeunes femmes au parcours inédit en grand chelem. D'un côté, Emma Raducanu, britannique de 18 ans. De l'autre, Leila Fernandez, canadienne de 19 ans. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Ça décoiffe hein, cette année.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Jamais deux joueuses aussi mal classées n'ont atteint une finale en Grand Chelem simultanément. Leïla Fernandez est 73e mondiale, Emma Raducanu 150e, alors qu'il y a trois mois, elle pointait à la 338e place mondiale. La Canadienne a 19 ans, la Britannique 18. Ce sont deux joueuses métisses. Fernandez est née à Montréal d'un père équatorien et d'une mère philippine. Raducanu, elle, d'un père roumain et d'une mère chinoise. Et c'est vrai, franchement, personne ne les attendait à ce niveau. Et pour cause, avant cette US Open, en six Grand Chelem disputés, Leïla Fernandez n'avait jamais dépassé le troisième tour. Emma Raducanu, elle, ne dispute que le quatrième tournoi de sa carrière, débuté en juin dernier, le deuxième seulement en Grand Chelem. La Britannique est la première joueuse, homme et femme confondues, issue des qualifications, à se hisser en finale d'un tournoi du Grand Chelem, ce qui veut dire, qualification comprise, qu'elle a joué et gagné aujourd'hui son neuvième match d'affilée. Et c'est ce qui est incroyable, c'est qu'elle n'a toujours pas perdu le moindre set. Leïla Fernandez et Emma Raducanu sont en état de grâce, audacieuses et généreuses, insouciantes, à la maturité désarmante. La Canadienne et la Britannique sont vraiment bluffante et tellement rafraîchissante.
Merci Fabrice Avgral et des ados de l'US Open. On passe aux vétérans du hard rock ou plutôt du heavy metal. J'ai nommé Metallica qui célèbre les 30 ans de leur fameux Black Album. Ils ont convié pour l'occasion des artistes du monde entier, dont deux Français, pour reprendre cette œuvre mythique. Mathieu Culeron. Blackened Recordings
presents. Dans ce coffret, 7 vinyles ou 4 CD, on retrouve les versions de Miley Cyrus, Saint-Vincent, Dave Gahan de Depeche Mode, Weezer et parmi la cinquantaine d'artistes présents, les Français Sébastien et Isia Higelin. Une surprise de taille pour la chanteuse en pleine préparation d'un nouvel album.
J'ai accepté immédiatement de le faire, déjà pour tout l'amour et la tendresse que je porte à ce groupe qui m'a accompagné toute mon adolescence et puis pour le challenge et puis parce que c'était la classe quoi. Donc on a pu choisir un titre en plus du coup entre tous et on a pris My Friend of Misery, qui est beaucoup plus lent à la base, beaucoup plus long, et on l'a dégraissé, on l'a fait à notre sauce, et puis on a fait ce morceau.
Isia qui a découvert sur le tard les noms de celles et ceux qui allaient l'accompagner sur ce disque fondateur pour Metallica.
Quand on a vu l'espèce de petit teaser avec tous les noms, tu fais « Ah ouais ? Ah ouais ? Trop bien ! Trop bien !» C'était un peu notre premier retour en studio en fait, on a pu aller à Ferbert faire ça, on s'est régalé, on était hyper contents de se retrouver, de refaire de la musique, de chanter, de se retrouver autour de ce projet.
Tous les profits de cet album anniversaire du Black Album de Metallica iront à des œuvres caritatives, Metallica qui seront en concert le 26 juin de l'année prochaine au Hellfest à Clisson.
Et ben voilà, c'est le moment de ressortir ces bracelets de force et de se laisser pousser les cheveux.
Et de bouger la tête. Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Marie-Pierre, le ciel reste orageux ce matin.
Oui, c'est un peu Metallica. Hein. La vague orageuse s'est déplacée vers l'est et les orages éclatent de la Lorraine en descendant vers la Bourgogne et la basse vallée du Rhône, alors que la région PACA et la Corse restent encore à l'écart ce matin. Sur toute la moitié ouest du pays, le ciel va alterner ce matin entre des éclaircies et des averses orageuses, avec une nébulosité plus marquée près de la Manche, accompagnée d'un bon vent d'ouest sous un mercure qui reste très très doux. 11 sur les Ardennes, 12 en Lozère, 13 en Haute-Loire, il fait déjà 24 en Corse, 23 à Toulon, 17 dans la Creuse, 18 à Quimper comme à Hendaye et 19 à Paris.
Et le temps reste instable cet après-midi.
Oui, ça va encore gronder avec toujours ces orages qui vont éclater sur l'est de l'Alsace, à la région PACA, à la Corse. L'activité orageuse reprendra aussi des Pyrénées au Massif central jusqu'au bassin parisien, alors qu'une amélioration va se dessiner sur l'arc atlantique avec de belles éclaircies qui vont revenir également près de la Manche jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, sous un bon vent d'ouest, sous des températures qui se rapprochent des normales de saison. 20 sur la pointe du Cotentin comme à Boulogne-sur-Mer, 21 à Saint-Brieuc, 22 à Lozère, 23 à Saint-Quentin comme à Paris ou à Saint-Martin-en-Ré. Il fera 24 à Strasbourg, 25 à Toulouse, 27 à Nice et à Nîmes et le maximum ce sera pour Ajaccio avec 29 degrés.
Merci Marie-Pierre. Il est 8h18, géopolitique.